Geneviève Jacquinot, bonjour. Merci d'être là avec nous. Une première question qui va porter sur un parcours, la personne, comment est-elle passée de l'université à l'audiovisuel?
En fait, je crois que je suis une des rares personnes, une des rares françaises qui n'ait pas fait sa formation au Centre audiovisuel de Saint-Cloud. On me le faisait remarquer assez souvent. En réalité, j'ai toujours voulu enseigner. J'avais donc préparé d'ailleurs l'école normale d'instituteur. J'avais été reçue première, mais sur la liste d'attente. Et on voulait m'envoyer en Tunisie. J'étais ravie, moi, bien sûr. Mais mes parents, il n'en était pas question. Donc, ils n'ont pas voulu que je parte. Et donc, j'ai commencé à enseigner dans différents établissements, comme maîtresse auxiliaire, enfin, tous les statuts de l'époque. Et j'ai travaillé en fait, un des derniers postes, je crois, non c'est pas le dernier, mais enfin j'ai été nommée à l'école normale de Laon, dans l'Aisne, où j'ai d'ailleurs appris beaucoup de choses sur l'enseignement primaire que je ne connaissais pas, mais j'avais fait bien sûr une formation de lettres modernes. Je faisais partie des premières certifiées en lettres modernes, sans latin ni grec. J'ai fait un petit peu de latin après, mais enfin, c'était encore l'époque où sans le latin, on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais j'étais lettres modernes, première licenciée. Ensuite, j'ai fait le CAPES, enfin, la formation classique pour enseigner dans l'enseignement secondaire. Et j'ai fait à peu près 5 années dans l'enseignement secondaire, depuis la 6e jusqu'à la terminale. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais en même temps suivi un diplôme d'études supérieures, ce qui correspond au Master 2 actuel, sur l'américanisation du vocabulaire du cinéma, avec le professeur Etiamble, parce que je m'intéressais déjà au cinéma, je dirais en tant que spectateur, spectatrice, notamment au cinéma documentaire. J'étais très intéressée par ce que c'est que traiter le réel à travers... Et je me suis très intéressée à mon sujet, qui était au fond à la limite entre le linguistique et l'étude de cinéma. Et à cette occasion, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui commençaient à travailler dans l'audiovisuel, comme on le disait à l'époque. Et j'ai été sollicitée pour participer à une fondation international, c'était un petit peu mon centre audiovisuel de Saint-Cloud parce que j'ai beaucoup appris, une fondation franco-suisse-italienne dont l'objectif était de faire du film pour l'Afrique noire, pour des populations, notamment j'étais impliquée dans un programme d'éducation sanitaire pour apprendre aux femmes à allaiter leurs enfants et à assurer les soins aux enfants. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il fallait utiliser l'image sans trop s'appuyer sur le commentaire, étant donné qu'il y a, c'était pour la Guinée à l'époque, le premier programme, il y avait environ 81 langues différentes. Donc j'ai déjà, sur le tas, beaucoup appris sur l'image en tout cas, et le rôle de l'image dans la transmission des savoirs et des idées, ce qui sera le titre de ma thèse future. Donc j'ai demandé à ce moment-là un congé pour convenance personnelle par rapport à l'éducation nationale, parce que je ne pouvais plus continuer à faire les deux choses, étant donné que j'allais souvent en Afrique notamment. Et j'ai fait ça à peu près sur 3 années, pendant lesquelles j'allais en mission simplement, je n'étais pas en Afrique, pendant lesquelles j'ai suivi autre élément de formation pour l'audiovisuel, puisqu'il y avait, il faut peut-être le rappeler, non seulement je n'étais pas au Centre audiovisuel de Saint-Cloud, mais à l'époque, il n'y avait aucune université, aucun lieu où on se préoccupait de l'audiovisuel, bien sûr. Donc cette deuxième formation, ça a été de suivre à l'Institut pédagogique national, rue d'Ulm, je m'en souviens encore, le mercredi après-midi, des séances où on visionnait des émissions de la télévision scolaire. La télévision scolaire qui commençait dans ces années 60 à se développer tout de même. Et donc, par ce biais, d'une part, j'ai aussi appris beaucoup de choses, et notamment, dès cette période, je me suis bien rendu compte que les enseignants, sauf exception, étaient loin d'avoir compris que l'image pouvait avoir un rôle très spécifique. Et j'étais toujours effrayée des débats qui s'engageaient après les émissions, où on disait « mais que va faire le professeur ? Ce n'est pas comme ça, le professeur va reprendre, etc. » Et faisant ce travail, j'ai répondu d'ailleurs à un appel d'offres, je ne sais plus si ça s'appelait comme ça à l'époque, de la télévision scolaire qui cherchait des scénaristes, enfin des gens qui proposeraient des sujets d'émission. J'ai proposé un sujet d'émission, j'ai été retenue, et donc j'ai commencé à travailler, on appelait ça comme concepteur ou comme pédago, avec des réalisateurs. Et ce qui a été intéressant, c'est que d'une part, j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme Éric Romer et Almain Drauz, qui n'étaient pas connus à l'époque, mais qui étaient déjà des gens de l'art cinématographique. Et j'ai demandé à suivre tout le processus depuis la conception jusqu'à la réalisation, ce qui n'était pas obligatoire, parce que c'était pour des honoraires qui étaient vraiment minimes, mais le problème n'était pas là pour moi. Donc j'ai appris de cette façon comment on passait au fond d'une idée pédagogique à une réalisation audiovisuelle. Et puis dans la logique de ce processus, qui me frappe toujours, j'ai dit après, mais une fois que ça a été réalisé, je voudrais bien voir ce qui se passe en classe. Ma première émission, c'était avec Leroy Gourand, sur la préhistoire. J'ai dit, une fois que ça a été terminé, on m'a dit, non, mais à l'époque, on ne va pas en classe pour regarder les émissions, on produit les émissions. Selon cette logique qu'on retrouve toujours, hein, l'accent mis sur le processus de production, l'offre, puis après... J'ai été quand même, grâce au réalisateur aussi qui m'a soutenue, suffisamment pesante, si je puis dire, et finalement, on a fait cette expérience d'aller dans une classe avec la dite émission et de voir comment les choses s'étaient passées. Ça a été enregistré, retranscrit, publié dans le journal de la radio-télévision scolaire de l'époque, et donc j'étais allée en quelque sorte jusqu'au bout du processus. Et d'une part, la fondation privée là dans laquelle je travaillais, qui commençait à avoir des difficultés, c'est vrai, mais surtout, j'ai été très intéressée à ce moment-là, quand j'ai appris qu'allait se créer un centre audiovisuel, plus exactement un collège audiovisuel expérimental, c'est-à-dire Marly Leroy. Et à ce moment-là, j'ai demandé à être professeur, à revenir autrement dit dans l'éducation nationale, dans les services publics, et à être professeur au CES de Marly Leroy. Et j'ai été, bien sûr...
En 1967
5, 6, les premières années. J'ai fait ce que j'ai appelé le chantier de Marly Leroy. C'était un vrai chantier dans la mesure où nous sommes arrivés. Et je raconte toujours que j'ai effectivement abîmé 3 paires de chaussures car nous marchions dans les gravats, dans la boue, etc. Et j'ai donc participé au début de l'expérience de Marly Leroy où je suis restée 2 ans. De toute façon, je crois qu'on va le voir assez vite. Moi, j'aime les débuts. Et quand ça commence à ronronner, j'ai envie d'aller ailleurs. Donc j'ai fait souvent des étapes de 2 ans en 2 ans. Mais parallèlement, bien sûr, j'ai commencé, là aussi c'est une certaine logique, ayant touché les problèmes pratiques, j'ai eu envie de prendre du recul et de m'engager dans la recherche sur ce type de problème. J'avais réalisé des émissions, j'avais beaucoup appris effectivement de la du processus de production. J'avais beaucoup appris aussi en voyant ce qui s'était passé dans une classe. Et j'ai donc engagé une recherche, une thèse, auprès de Christian Metz, qui était à l'époque, bien sûr, la référence en études sur le cinéma, et notamment en sémiologie du cinéma. Et j'ai commencé donc une thèse de 3e cycle sur sémiologie et la sémiologie des documents audiovisuels éducatifs au service de l'éducation. J'ai suivi son séminaire pendant pas mal d'années. Et là se passe quelque chose effectivement d'important pour moi et aussi, je dirais, dans l'histoire des technologies éducatives. C'est en 68 la création de l'université de Paris 8, Vincennes. Université orientée vers le monde moderne, université équipée d'un studio avec des caméras Tolana Thompson qui étaient déjà archaïques à l'époque, qui permettaient d'enregistrer à la fois en film et en télévision. Et j'ai été sollicité, c'est intéressant parce que l'Université de Paris 8, au départ, a constitué un noyau d'enseignants par cooptation. Pas du tout en suivant les habitudes de domination, les processus habituels. J'ai donc été sollicité pour l'audiovisuel et compte tenu de mon expérience antérieure, de mon travail de recherche. Et donc j'ai commencé à travailler à l'Université de Paris 8, d'abord comme chargé de cours, puis ensuite très vite intégré, en faisant ma thèse, puisque j'étais à l'époque ce qu'on appelait assistante, c'est-à-dire chargée d'enseignement, bien sûr, et ayant l'obligation, et ce n'était pas une obligation pour moi, c'était un vrai plaisir de travailler sur la thèse que j'ai soutenue en 1975, effectivement, la première. Mais j'avais déjà senti, grâce à la pratique, de comprendre comment... me semble-t-il, comment il fallait essayer de travailler pour sortir de ce carcan, de ce modèle pédagogique si contraignant qui faisait que l'image et le son étaient au fond, le commentaire était au service de l'image, contraint en quelque sorte, et qu'on ne laissait pas l'image prendre en charge un certain nombre de significations. Ce que je veux dire, c'est que l'articulation des travaux théoriques en sémiologie et du travail pratique de réalisation et d'utilisation m'avait quand même énormément sensibilisé au fait que si on utilisait l'audiovisuel, ce n'était pas pour faire ce qu'on faisait avec le commentaire. Et en référence, au fond, à l'époque, finalement, l'époque de la télévision scolaire et ensuite de Marly Leroy, les théories qui étaient implicites dans tout ça, elles étaient implicites, les théories. Ce qui était très explicite, c'était la conception de l'audiovisuel au service de la démocratie. C'était l'idée à l'époque, sur laquelle on est beaucoup revenu après, qu'utiliser l'image à la place, en quelque sorte, du discours verbal, c'était avoir un accès plus facile au savoir et à la connaissance. C'était la grande idée de Marly Leroy. L'autre grande idée étant que si on introduit l'audiovisuel dans un processus éducatif, ça va changer un certain nombre de choses, peut-être pas automatiquement, hein, les technologies, je dirais, sont déterminantes, mais jamais déterministes. Il faut que bien d'autres choses jouent pour qu'il y ait un impact et pour qu'il y ait des effets. Mais tout de même, il y avait l'idée que si on utilisait l'audiovisuel, il fallait déstructurer la classe, l'espace. Et à Marly Leroy, il y avait une architecture spécifique. Une espèce de schizophrénie s'est installée à cette époque-là, dans les années 80, entre les gens qui travaillaient sur l'éducation à l'image ou aux médias et ceux qui travaillaient sur l'éducation par les images et par les médias. Schizophrénie que je n'ai jamais comprise, parce que si je travaille sur une fiction historique, je vais bien sûr travailler sur le contenu historique que me restitue cette fiction, mais je ne vais pas le faire sans tenir compte de la façon dont la fiction est présentée, la narration, etc. Donc, je me suis toujours battu en vain. Mais heureusement, les nouvelles technologies vont arriver qui permettront la convergence. Mais je me suis toujours battue en vain contre cette séparation. Et j'ai mené, aussi bien dans mes enseignements, dans mes recherches que dans mes directions de thèse, les deux dimensions. Toujours la dimension d'opération de télévision éducative ou d'utilisation de médias, multimédia et autres éducatifs, et aussi l'éducation à l'image et l'éducation au support. Mais j'ai fait l'hypothèse, malheureusement vérifiée, qu'il y avait là une constante dans la tradition éducative qui est le mépris de la technique et la minimisation du support, de la médiation. Dans la tradition éducative, ce qui est important, c'est la discipline. On forme des spécialistes de la discipline. Michel Tardy, en 1966, avait dit et écrit cela très bien, hein, le mépris du technique, qui vraiment, je crois, a handicapé toute l'histoire des technologies éducatives. Donc il y a pour moi, en tout cas, cette dimension qui est très forte dans toute l'histoire des technologies éducatives, une espèce de disjonction entre les niveaux de décision, les mises en application, etc. C'est plus qu'une différence entre la réalité et les principes. Ça, c'est normal qu'il y ait une différence entre la réalité et les principes. Mais je l'analyse en ce moment à propos des campus numériques. C'est la différence, oui, je ne peux pas le dire mieux, de niveau de formation, de savoir, d'information, de prise de conscience, et qui fait que quand on veut passer d'une expérience relativement ponctuelle, Marly Leroy concernait un établissement en un premier temps, à une extension, sinon une généralisation, on comprend mieux, quand on a fait ce type d'analyse, tous les retards, tout ce qu'on appelle les résistances, tous les dysfonctionnements. Des professeurs étaient nommés à Marly Leroy qui en arrivant disaient « Mais pourquoi est-ce qu'il y a des téléviseurs dans cette classe ?» Ce qui prouvait quand même un minimum d'informations qui n'avaient pas été données. Mais surtout, parce que chacune de ces opérations, en fait, a été un laboratoire pédagogique qui a permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses, du moins pour ceux qui acceptaient de jouer le jeu, enfin d'entrer de jouer le jeu, je dirais comme ça. On a appris avec Marly Leroy des tas de choses, que les collègues qui sont impliqués à l'heure actuelle dans l'enseignement supérieur, dans les campus numériques, excusez-moi d'en parler, mais je suis en plein dedans pour l'instant, découvrent la nécessité de travailler en équipe, le fait que d'avoir une ressource audiovisuelle, multimédia, numérique, tout ce qu'on veut, Ça ne règle pas les problèmes, je dirais même que ça en pose beaucoup. Ça renvoie vers l'enseignant qui doit se reposer des questions sur son rôle, etc., etc., sur la relation avec les élèves. Donc, ce qui m'intéresse, au fond, à travers l'histoire des technologies éducatives, maintenant, celle que j'ai traversée en tout cas, c'est qu'elles sont toujours l'occasion de découvertes et d'une espèce de fonction auto-apprenante, à condition, et c'est vrai que la condition est rarement remplie, pas suffisamment rempli, à condition d'être suffisamment, je dirais, ouvert et d'avoir un peu le sens du risque pour accepter de s'interroger à cette occasion. Donc, je vais revenir à la question, mais il me semblait important de me positionner par rapport à la notion d'échec. Je l'avais vécu à Marly-le-Roi, avec non seulement des enseignants qui étaient nommés comme d'habitude, mais des inspecteurs qui venaient inspecter comme d'habitude. Nous travaillons en équipe. À Marly-le-Roi, l'inspecteur a voulu nous voir individuellement. On a refusé. On était vraiment... oui, on croyait à ce qu'on faisait à l'époque. On a dit non, on travaille en équipe, on va être inspecté en équipe. Et au niveau de l'Université de Paris 8, la procédure de recrutement des enseignants s'est faite ensuite tout à fait comme d'habitude, je dis bien. Et en sciences de l'éducation, je dois quand même le dire, j'ai été le seul professeur, avec statut de professeur, ayant passé ma thèse, puis la deuxième, etc., le seul professeur dont le profil de poste était intitulé « Technologie d'éducation ». En 30 ans de carrière à Paris 8, il n'y a eu qu'un poste de professeur avec cet intitulé. Ça en dit long tout de même sur la difficulté de l'institution à se transformer et à être suffisamment flexible pour intégrer les innovations. Donc l'analyse systémique, c'est vrai qu'elle est presque impossible, à l'époque en tout cas elle était impossible, de maintenir toutes les dimensions à la fois. La dimension politique, la dimension économique, la dimension institutionnelle, la dimension pédagogique, la dimension humaine. Parce que derrière tout ça, bien sûr, il y a des personnes humaines. Et je pense que, enfin, pour moi, maintenant, ayant appris beaucoup à travers toutes ces expériences, je pense que la vraie raison de ces, sinon échecs, du moins ralentissements, difficultés, dysfonctionnements, résistances, etc., c'est essentiellement la difficulté de tenir tout à la fois les différents niveaux d'intervention de telles expérimentations. Ou bien on les enferme et on les maîtrise. C'était un petit peu le cas au début de Marly-le-Roi. Ça a été un petit peu le cas de Paris 8, qui était devenu un ghetto. On les maîtrise, mais on les limite. Et si on veut les étendre, les généraliser, comme on le dit, à ce moment-là, il faut pouvoir maîtriser simultanément des niveaux d'intervention qui sont tout de même très difficiles à maîtriser. C'est un passage conceptuel qui est rare, qui a été fait par un certain nombre de gens autour des années 70. On peut dire qu'en France, l'analyse systémique, je donne souvent la référence du texte d'Étienne Brunswick dans la Revue française de pédagogie, qui a écrit un texte. J'étais déjà professeur, enfin assistante à Paris 8. Je me suis servi abondamment de ce texte pour faire des cours, pour expliquer aux étudiants qu'effectivement, et c'est ça peut-être qui est le plus difficile à faire comprendre à un enseignant qui est habitué par sa formation à avoir un point de vue, une focalisation sur un contenu, sur un niveau scolaire, sur une classe, sur des choses qui sont en fait micro par rapport au système. L'analyse systémique nécessite d'avoir une vision globale. Et je pense que dans les principes qui étaient à la base de Marly-le-Roi, il y avait cette idée déjà de l'analyse systémique. La preuve, c'est qu'il y a eu une architecture différente, qu'il y avait un espace scolaire organisé différemment. Les classes de sixième qui étaient toutes organisées, qui ouvraient sur un forum, ce que les élèves ont très vite appelé la piscine, puisqu'il fallait descendre des escaliers pour entrer, que c'était bleu, etc., etc. Donc il y avait eu une pensée systémique, à mon avis, à la base de Marly-le-Roi. Mais cette pensée systémique, elle n'a pas été prise en charge par tous les niveaux d'acteurs pour des raisons de non-formation, de nouveauté. Les inspecteurs, je me souviens de l'inspection à laquelle j'ai eu droit à Marly-le-Roi, où l'inspecteur me demandait ce que voulait dire un scénario pédagogique, etc. etc. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'était vraiment ça. Le problème était que ça n'était pas suivi, intégré à tous les niveaux. Cela dit, où il y avait eu naïveté Et malgré les travaux justement sémiologiques de l'époque, mais qui commençaient, où il y a eu naïveté, c'était de croire que remplacer un commentaire magistral par des images, c'était d'emblée rendre le savoir admissible, accessible, pardon, par tout le monde. Ça, on s'est bien rendu compte que c'était un leurre. Une utopie, absolument. Mais là encore, qui nous a permis d'apprendre et qui permettait, si on avait un petit peu de flexibilité, de se dire, eh bien, il faut partir d'une autre hypothèse, ce qui s'est fait d'ailleurs progressivement, c'est-à-dire l'image comme le verbe, ça s'apprend. Ça s'apprend plus vite, vraisemblablement, qu'un langage. Ça s'apprend différemment, c'est sûr, mais ça s'apprend. Et il y a eu tout de même, à ce moment-là, tout ce courant de ce qu'on appelle l'éducation à l'image ou initiation à la culture audiovisuelle, etc., qui venait en complément de l'utilisation de l'audiovisuel comme support de transmission de savoir. Mais c'était quand même, il faut replacer ça aussi dans le contexte un peu historique, contexte historique, hein. Dans les années 60, c'était la massification de l'enseignement, c'était la découverte des masses médias, tout ça allait ensemble. Et puis dans les années 70-80, enfin d'abord il y a eu le mouvement de 68 quand même, qui au niveau aussi bien des médias que de l'école a montré que la critique était nécessaire, qu'il fallait revenir sur ces belles utopies. Mais après, il y a eu progressivement une désaffection de l'audiovisuel, une déception en tout cas. On avait moins confiance justement dans l'audiovisuel quand on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas se substituer si facilement à la communication verbale. Paris 8 a été créé après les mouvements de 68. Et moi, je suis arrivée presque au début à l'université, donc en tant que chargée de cours avant d'être assistante. Mais c'est très intéressant, comme je m'intéressais à l'audiovisuel et qu'on était dans le contexte de 68, qu'il ne faut pas oublier, j'étais étiquetée la technologue, celle qui était le suppôt du pouvoir. En gros, les médias, au moment de 68, appareil idéologique d'État, etc., etc., étaient perçus comme un instrument du pouvoir. Et toute l'histoire de Vincennes à l'époque était « détruisons les instruments du pouvoir ». Et il y a même eu une destruction matérielle du studio, des équipements, etc. Il y avait, pour moi, c'était une chose très étonnante et très traumatisante en un sens, tu as raison. Je venais, et j'avais été sollicité compte tenu de mon expérience, d'une certaine expertise quand même, il n'y en avait pas tellement à l'époque, et je venais pour développer ce que j'avais appris dans le cadre universitaire, dans une université qui se présentait comme ouverte au monde moderne, qui avait de superbes studios, des personnels techniques pour faire fonctionner tout ça. Mais ça n'a pas été si simple, pour cette raison que c'était en contradiction d'une certaine façon avec l'idéologie qui circulait à l'époque, en gros et très schématiquement, mais malheureusement c'était celle-ci, les moyens de communication de masse, ce sont des instruments du pouvoir. Il ne faut donc pas, non seulement ne pas s'en servir, mais il faut les détruire. Première chose. Et deuxième chose, qui est peut-être moins avouable, mais qui est quand même réelle, toutes ces choses-là reposent aussi sur des petits pouvoirs. Il y avait des grands pouvoirs idéologiques, mais il y avait aussi des petits pouvoirs. Et je me souviens très très bien que malgré, je dirais, j'espère, la modestie avec laquelle je voulais travailler, j'ai, sans le vouloir, et j'étais pas la seule, tous les gens qui voulaient travailler du côté des enseignants ont perçu une résistance du côté du pouvoir technique, entre guillemets. C'est-à-dire que je me souviens très bien que, prenant un certain nombre d'initiatives au département de sciences et d'éducation, je suis entrée, heureusement ça s'est arrangé après, mais en conflit avec certains autres acteurs, là encore, qui avaient des visions différentes, des pratiques différentes, des objectifs différents. Et ça a joué ça à un deuxième niveau. Je dis bien le plus important, c'était le fait que c'était en contradiction avec l'idéologie dominante. Et d'ailleurs, progressivement, on a assisté, je pourrais pas restituer l'historique, mais on est passé de cet énorme studio avec ces énormes caméras de Lana Thompson, dont le seul autre exemple, on le disait à l'époque, était d'ailleurs la Côte d'Ivoire, je crois, à des studios plus petits, du matériel plus léger, etc. C'est-à-dire d'une conception d'ailleurs nord-américaine de l'audiovisuel, massive, de diffusion unique, allant de l'émetteur vers le diffuseur. La théorie de Shannon, implicite la plupart du temps, mais très 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 forte, hein, du message à faire passer dans un sens unidirectionnel, on a progressivement démoli, détruit et changé au fond l'orientation et la politique, la stratégie audiovisuelle de l'établissement. Avec des unités de production dans les différentes, enfin c'était pas des UFR à l'époque, mais enfin disons des UFR ou des départements, et puis de la production mise dans les mains des étudiants, des instruments de production mis dans les mains des étudiants. Voilà, là on était en adéquation avec la logique de Paris 8. Si bien d'ailleurs, paradoxe, que l'université de Paris 8, pendant toute cette période forte de l'audiovisuel, ne produisait aucun document support à l'enseignement. Les seuls documents qui étaient réalisés étaient des mini-productions. J'ai participé moi-même à des mini-productions faites par les étudiants. Et j'ai été amenée à créer un premier cycle au risque énorme articulant éducation et communication. Un premier cycle qui s'appelait ECA, éducation, communication, animation. Je dis au risque énorme parce que même à Paris 8, qui était déjà d'ailleurs revenu dans le giron un peu plus traditionnel de l'université, rapprocher des disciplines, malgré les discours sur l'interdiscipline, était quelque chose de mal vu, difficile, intéressant, nécessaire, urgent, à mon avis, mais mal vu. Cela dit, à travers ce premier cycle, qui s'est transformé, qui s'est prolongé ensuite par un deuxième, par un troisième, on a créé carrément une UFR, maintenant, de communication à l'Université de Paris 8. Au fond, j'étais à l'origine, je suis contente du résultat. On a essayé justement de rapprocher les disciplines pour avoir de l'audiovisuel une vision justement plus large. À partir du moment où on a compris que utiliser une ressource audiovisuelle, multimédia, dans une classe, puis ensuite dans un système un peu plus vaste, ça peut modifier beaucoup de choses, ça peut nécessiter la modification de beaucoup de choses. On arrive aussi à l'idée que l'intérêt de ces ressources technologiques, c'est qu'elles peuvent prendre en charge ce qui autrefois était pris en charge par l'enseignant. Extraordinaire. On peut mettre en boîte, comme on l'a dit, des choses qui nécessitaient la présence de l'enseignant. Si on peut mettre en boîte des choses qui nécessitaient la présence de l'enseignant, ça veut dire que l'enseignant n'a plus besoin d'être là, pas toujours là. On n'a jamais dit que l'enseignement à distance remplaçait l'enseignant, mais il prenait en charge une partie de sa fonction, ce qui l'amenait normalement à repenser sa fonction, à repenser son rôle, à repenser aussi l'organisation du système, du dispositif de formation dans lequel il intervenait. Et j'ai donc effectivement eu l'occasion, progressivement, j'ai travaillé d'ailleurs avec l'Open University dès l'origine en tant que consultant. J'ai appris beaucoup, là encore, moi j'ai appris toute ma vie de ce point de vue-là, sur le tas, beaucoup. Et j'ai aussi essayé d'introduire cette dimension de la formation à distance à Paris 8. D'autant plus importante que Paris 8 avait déménagé en Seine-Saint-Denis. C'est loin, quand on habite Paris. Nos étudiants venaient à des séminaires après avoir passé une heure et demie dans les embouteillages ou dans les trains, dans les trams, etc. Et je pensais que c'était aussi thème de la formation à distance, la seconde chance, la possibilité de reprendre des études. Je pensais que l'enseignement à distance était une solution, une nouvelle modalité, une nouvelle modalité avec ses caractéristiques. Mais j'ai eu la même déception, disons, qu'au début, à savoir que j'ai été sollicitée dans beaucoup de pays étrangers pour travailler sur la formation à distance, sur les dispositifs à distance. Le seul endroit où je n'ai pas eu beaucoup droit à la parole, c'est dans ma propre université, qui ne s'est pas ouvert à la problématique de la formation à distance. À mon avis, toujours tout de même avec cette idée, cette idéologie qui restait présente de la co-construction des savoirs entre l'enseignant, c'est-à-dire l'importance de la communauté prenant en charge sa formation. Et puis aussi, il faut quand même le dire, à cause d'une faiblesse de notre département de sciences de l'éducation qui n'a pas compris du tout, mais alors du tout, ce que pouvait être l'importance des technologies dans l'éducation. J'ai été toujours alimentée, je dirais, par des missions à l'étranger qui m'amenait à remettre en question quand même un certain nombre d'idées que je croyais solides, ce qui est toujours utile, mais en même temps à malheureusement constater les mêmes écarts, les mêmes difficultés, les mêmes résistances. Donc j'ai participé à des missions pendant une dizaine d'années, d'ailleurs, au programme d'éducation télévisuelle, qui a été une expérience unique. Unique pourquoi ? Parce que ça rassemblait sur un pays qui se lançait dans une opération à risque, l'ensemble, ce qu'il y avait, on l'a dit à l'époque, ce qu'il y avait de plus avancé dans la recherche comme dans les pratiques d'éducation audiovisuelle. C'était une rencontre internationale, il y avait des experts de différents pays qui se réunissaient régulièrement, etc. Donc c'était unique de ce point de vue-là. Et l'opération elle-même, introduire la télévision à l'école primaire pour tous les petits Ivoiriens, ça participait là encore de cette idée d'une démocratisation, d'un accès plus grand, d'une égalité des chances, etc., etc. Et ça a été, j'ai vécu à travers ces différentes années de mission ponctuelle, une imprégnation, bien sûr, fallait apprendre aussi un petit peu ce qu'était la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'était pas la France. Le programme de radio éducative, ce n'était pas la télévision éducative française, hein, même si, justement, toujours à cause de l'ambiguïté de ces relations nord-sud, on avait tendance à vouloir reproduire en Côte d'Ivoire ce qui se faisait en France, hein, ce qui, en fait, quand on était sur les lieux, posait problème. Hein, on les a vécus directement. Et dans ce cadre de ce programme télévisuel, j'ai donc suivi, j'ai participé à l'élaboration progressive pendant une dizaine d'années. Jusqu'au jour où, d'ailleurs, à l'UNESCO, on m'a demandé de mettre sur pied un programme de recherche. Ça, c'est aussi une des dimensions qu'on connaît bien, que vous connaissez bien malheureusement, l'absence de recherche dans tous ces programmes. On expérimente, on ne capitalise pas, on ne garde pas trace, et naissent un grand nombre de problèmes qu'il faudrait prendre peut-être les uns après les autres pour y mettre des groupes de recherche. Pas de recherche. Là, chose extraordinaire, on me dit que ça serait bien de mener un programme, de mettre sur pied un programme de recherche sur les effets de la télévision éducative en Côte d'Ivoire. C'était autour des années 79-80. Ayant déjà une connaissance de la Côte d'Ivoire et du programme d'éducation télévisuelle, j'ai accepté d'être une mission de coopération. Et pendant 3 ans, j'ai été détachée en Côte d'Ivoire au département, enfin c'était pas encore le département de communication, au département audiovisuel de l'université d'Abidjan, où j'ai d'ailleurs, avec des collègues, mis sur pied un département de communication, et où je m'apprêtais à faire ce qui m'avait été demandé, avec bien sûr tous les collègues, tous les acquis des 10 années antérieures, 80, 80, 82, 82, c'était la fin du programme d'éducation télévisuelle. Pour des raisons, alors, j'ai eu l'occasion d'écrire plusieurs choses sur ce thème, qui, pour certains, donc, c'était un échec, pour d'autres, pour des raisons politiques, pour des raisons financières, il y a plein de raisons. C'est pour ça que l'échec, je ne parlerai pas non plus de l'échec du programme d'éducation télévisuelle, il nous a appris encore beaucoup de choses. Il a appris aussi beaucoup de choses aux jeunes Ivoiriens et Ivoiriennes, quand on a la chance d'en rencontrer, et ça arrive, qui ont connu le programme d'éducation télévisuelle. Ils témoignent toujours d'une chose que dont nous étions conscients, c'est le fait que, c'est peut-être ça d'ailleurs qui a été le plus difficile à faire accepter en Côte d'Ivoire, le fait que ces jeunes enfants qui avaient travaillé dans le cadre du programme d'éducation télévisuelle comme élèves avaient appris à s'exprimer, à dire éventuellement ce qu'ils pensaient, à interroger le maître, à pas tout attendre et du savoir qui venait d'en haut. Ils avaient donc une certaine indépendance. À Marly-le-Roi, quand les élèves de 3e sont allés dans des établissements secondaires classiques, dans lequel on n'avait pas expérimenté l'audiovisuel, ils ont été très mal perçus, et par les professeurs, et par leurs camarades, très mal perçus par les professeurs parce qu'ils posaient toujours des questions. Ils étaient habitués à poser des questions, à discuter, mais ça ne se faisait pas à l'époque, en classe de seconde. Ça a été la même chose pour l'expérience de le programme d'éducation télévisuelle. Il y a eu passage de la classe, du premier cycle, ce qu'on appelait, hein, au second cycle. Il y a eu une rupture énorme entre ces habitudes qu'avaient prises les enfants télévisuels, comme on les appelait, et le système éducatif classique. Il y avait d'autres problèmes, bien sûr, en Côte d'Ivoire, qui étaient aussi des problèmes de nombre. Le programme d'éducation télévisuelle avait ouvert l'enseignement primaire à tous les enfants. L'enseignement secondaire n'était pas ouvert à tous les enfants. Donc on a eu le problème du goulot d'étranglement, etc. Là aussi, problème systémique. Si on introduit une innovation à un certain niveau, il faut penser à ce qui va se passer après, et etc., etc. L'analyse systémique, elle est aussi chronologique et elle doit se penser, se situer aussi dans le temps. J'ai fait des cours de sémiologie à des ministres. Oui, il faut être jeune. Quand j'y pense maintenant, je me dis c'est pas possible. Oui. Monsieur Dikébié, un certain nombre de ministres ont assisté à des cours de sémiologie, puisqu'il fallait bien dire l'image peut être utilisée, etc., etc. Mais par rapport à l'image, parce que c'est vrai que c'est mon sujet de recherche essentiel, hein, le statut de l'image par rapport au discours, le statut de l'image dans l'éducation, etc. Pardon. Ce qui était intéressant et dommageable de constater dans le programme d'éducation télévisuelle, c'est que quand on utilisait des images, on utilisait malheureusement plus souvent des images, je dirais, à connotation française que des images qui auraient pu éveiller un écho localement. Je me souviens de cette anecdote très forte pour moi. Quand j'arrivais en mission Côte d'Ivoire, mes amis réalisateurs, mes amis français, puisque l'assistance au niveau de la réalisation était essentiellement l'équipe française. Pour les documents d'accompagnement, c'était l'équipe canadienne. Donc les gens avec lesquels je travaillais, les Français, je les connaissais. Ils disaient, viens voir, tu vas voir, j'ai fait une émission superbe, un graphisme magnifique, c'est superbe. Et je voyais des émissions dont le graphisme était superbe pour moi et pour eux, mais absolument pas pour les jeunes Ivoiriens. Je me souviens notamment d'un dessin d'un train entrant en gare qui voulait renvoyer au film de Méliès, et les enfants ont dit tout naturellement que c'était un masque. Et ils avaient raison, c'était un masque. Le dessin c'était un masque. Au fur et à mesure, la pression sociale est devenue très forte. Marly-le-Roi, c'était un établissement, expérimental, une vitrine. Après, il y a eu quelques autres établissements, l'audiovisuel, à part la télévision qui est faite pour distraire, ça n'a jamais beaucoup mobilisé l'espace public, comme on dit, hein, c'est clair. Déjà, avec l'informatique, très grosse différence. Les parents ont fait une pression. L'informatique, c'est important. Dans la vie professionnelle, c'est important. Il faut former nos enfants à l'informatique. Puis ça mettait moins en question la tradition verbale et écrite de l'école. Et là, avec la formation à distance, on arrive, et avec le développement des technologies, on arrive à une pression sociale beaucoup plus grande. On va pas revenir sur ces aspects que l'on vit actuellement, hein, la diffusion de toutes ces technologies, Internet et autres, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie quotidienne. Acheter son ticket tout de même, hein, les machines automatiques, l'analphabétisation technologique qui guette un certain nombre de populations. Donc il y a une pression sociale, et je crois que là, théorie sociopolitique des usages, théorie des usages des technologies, c'est bien une dimension qu'on met en évidence. Une technologie, au fond, quelle qu'elle soit, au service de l'éducation ou au service d'autres pratiques sociales, ne peut s'imposer que quand elle correspond à un besoin social, quand elle renvoie à une pratique sociale.
Il me semble que dans un certain nombre de tes écrits, tu appelles à une fusion théorique. Je crois que c'est toi qui dis « on demande un Piaget pour le 21e siècle ». Est-ce que c'est un joke ou est-ce que tu penses qu'une théorie globale est nécessaire, et est-ce que ce que tu viens de dire voudrait dire que les briques de cette théorie sont disponibles actuellement et s'imbriquent mieux parce qu'il y a des pratiques sociales de référence?
Oui, non, je le pense vraiment. C'était une formule, bien sûr, hein, mais une formule, elle est faite pour frapper, un slogan à la limite. Mmh. Mais derrière, il y a une réelle croyance, attestée d'ailleurs. J'ai aussi écrit un texte qui s'appelle « La télévision partenaire cognitif », où je développe cette idée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté l'école, de l'autre côté les médias, On le voit tellement bien à l'heure actuelle. Il y a des jeunes générations, il y a une structure éducative qui ne fonctionne qu'à travers la médiatisation qu'il faut prendre en compte. Donc, je tiens à la formule, mais je dirais qu'il y a derrière une conviction qui s'assoit maintenant sur des éléments, effectivement, des briques. La psychologie cognitive, au bon sens du terme, je sais qu'il y a différentes écoles et qu'évidemment il ne faut pas commencer à entrer dans les querelles d'école, ou alors si on y entre c'est pour aller y faire son miel et ensuite aller voir ce qu'on pourrait récupérer. Mais je pense qu'il y a maintenant effectivement des éléments, des bribes qui pourraient, étant mises ensemble, constituer une théorie. Elle est absolument nécessaire. Elle est absolument nécessaire parce que il est évident, quand on a fait une seule fois soi-même l'expérience, mais l'ennui c'est que beaucoup des personnes qui s'impliquent dans ces domaines n'ont pas elles-mêmes fait l'expérience. Si un jour on a fait l'expérience, soit d'apprendre à distance, à partir d'un document, soit de travailler et d'essayer de regarder un peu différemment une émission, etc., on voit bien qu'on apprend avec les médias. C'était le titre du numéro de la revue de communication en 80, apprendre des médias. On apprend des médias, mais on apprend différemment. La différence qu'il y a à l'heure actuelle entre les jeunes et nous, hein, en tout cas moi, disons, malgré tous les efforts, prouve bien qu'on est dans une autre culture. Si on est dans une autre culture, c'est que l'environnement, bien évidemment, social a changé, mais c'est aussi qu'on a besoin d'outils théoriques nouveaux pour comprendre ce qui se passe. Je travaille en ce moment justement sur la notion de médiaculture. Non plus l'éducation par les médias ou l'éducation aux médias, mais la prise en compte des médiacultures. Un concept que les sociologues, que les Anglais, les cultural studies, ont essayé de diffuser depuis longtemps et que des sociologues français à l'heure actuelle travaillent très précisément. Les médiacultures, c'est ce à partir de quoi peut se penser à notre époque une nouvelle école. On a longtemps opposé la culture de masse et la culture des élites. Je pense qu'on a dépassé largement cette opposition entre culture de masse et culture d'élite, qui a structuré et figé l'opposition pendant des années entre le monde des médias et le monde de l'école. Je pense que cette notion de médiaculture peut nous faire avancer dans la mesure, justement, où elle dépasse la dichotomie, culture de masse et culture d'élite, pour essayer, justement, en articulant ces briques. Je citais psychologie cognitive, théorie de l'action, articulation théorie pratique, sémiologie aussi, sémiologie revue. J'ai participé à un séminaire pendant 5 ans récemment qui vient de donner lieu à une publication sur la notion d'image actée. J'aime beaucoup cette expression, l'image actée, l'image interactive, l'image qui n'existe que parce qu'on l'a fait exister, qui n'existe que par le geste et pour le geste. Un séminaire qui était passionnant, qui réunissait des artistes essentiellement et des informaticiens. J'y suis allée, comme d'habitude, pourquoi ? Je me suis dit, il doit y avoir des choses à récupérer pour l'éducation. Et donc, sur la nécessité et sur la confiance que j'ai à l'heure actuelle dans les apports théoriques, ma confiance est grande. Ce qui est beaucoup moins grand, c'est les réalités institutionnelles.